Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une enquête sur une découverte qui ne vous dit peut-être rien, mais qui va révolutionner la planète. CRISPR-Cas9 va permettre de guérir des maladies incurables, mais certains services de sécurité le considèrent déjà comme une possible arme de destruction massive. Sylvain Tronchet, vous allez nous expliquer tout ça, bonjour.
Bonjour Jacques.
Et puis nous recevrons Vincent Crouzet, bonjour.
Bonjour Jacques Monin.
Alors vous publiez chez Robert Laffont un livre sur l'affaire Uramine, trois mines d'uranium achetées par Areva à prix d'or, et vous soutenez que cette vente aurait donné lieu à des rétrocommissions.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Pour avoir transformé un mécanisme naturel immunitaire en technologie performante de modification du génome, ce qui ouvre de grandes perspectives pour la médecine.
Le prix de l'innovation est décerné à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna.
Vous avez peut-être reconnu la voix de l'actrice Cameron Diaz, c'était le 19 mars 2015. Elle remet un prix à l'américaine Jennifer Doudna et à la française Emmanuelle Charpentier, deux chercheuses qui viennent de faire une découverte qui va révolutionner le monde pour le meilleur, mais peut-être aussi, on va le voir, pour le pire. Alors cette découverte porte un nom assez barbare, CRISPR-Cas9, Cas9 en français. On appelle aussi ça l'édition de génome. Alors expliquez-nous, Sylvain Tronchet, CRISPR, qu'est-ce que c'est exactement ?
Il y a une image très simple qu'on utilise souvent, ce sont des ciseaux à découper l'ADN. Ils permettent de venir bricoler dans notre patrimoine génétique avec une incroyable précision, jamais vue jusque-là.
Mais qu'est-ce que ça change ? Parce que les manipulation génétique, c'est pas vraiment nouveau. Hein.
Oui, mais ce qui était long, fastidieux, aléatoire, très cher, est devenu soudainement simple, incroyablement précis et très bon marché. Avec CRISPR, on peut viser une séquence de l'ADN de n'importe quel organisme vivant et choisir, couper un gène dont on soupçonne qu'il soit responsable d'une maladie, par exemple, le remplacer ou modifier ses effets. C'est le couteau suisse des généticiens.
Et donc, si je vous entends bien, on pourrait guérir des maladies incurables.
Et on pense tout de suite aux maladies génétiques comme la mucoviscidose ou les myopathies. On a d'ailleurs déjà obtenu des résultats sur la myopathie de Duchenne chez les souris, mais on a aussi beaucoup d'espoir sur certains cancers.
On pourrait donc guérir des maladies, mais ça ouvre, Sylvain, en fait, beaucoup d'autres perspectives.
On n'imagine même pas les effets de cet outil sur l'ensemble du vivant. Ces nouvelles techniques vont tout simplement changer le monde tel que nous le connaissons. Pour André Choulika, c'est le créateur de Cellectis, l'une des entreprises françaises les plus avancées en la matière.
C'est un truc complètement fou. C'est une révolution qui va secouer la planète dans une profondeur dont on n'a même pas idée. Toute l'évolution de l'homme jusqu'à présent, essentiellement par sélection clonale ou les mariages entre gens, etc., a fait que on est arrivé où là on en est. Aujourd'hui, il y a en fait un tournant énorme qui est en train de se passer grâce à ces technologies-là. Les gens vont pouvoir designer des génomes, créer des espèces.
Créer des espèces, c'est-à-dire ?
Un exemple, avec CRISPR, un généticien américain renommé affirme qu'il pourra, dans quelques années, faire revivre un mammouth laineux, une espèce qui a disparu il y a 4000 ans.
Un mammouth laineux, comment il compte s'y prendre ?
Eh bien, il compte récupérer de l'ADN de mammouth congelé, il y en a en Sibérie, hein, et introduire cet ADN dans celui d'un éléphant d'Asie grâce à CRISPR-Cas9.
Pour recréer un mammouth, donc, c'est complètement dingue, hein, votre truc. On le fait déjà, ce genre de choses ?
Non, pas encore, hein, mais on a déjà fabriqué, entre guillemets, des chiens bodybuildés. On a identifié le gène qui conditionne la masse musculaire chez le chien, et du coup, les Chinois ont créé des beagles deux fois plus costauds que la moyenne. Ils ont aussi créé des mini-cochons. On a même créé des vaches laitières sans cornes en leur introduisant le gène qui fait que certaines espèces n'en ont pas.
Bon, mais dites-moi, si on peut transformer ainsi, parce que c'est ça, hein, des animaux, est-ce qu'on ne peut pas aussi le faire sur l'homme ?
Eh bien, effectivement, on peut tout imaginer. Et c'est ce que disait récemment, lors d'une conférence, Jennifer Doudna, la co-découvreuse de CRISPR.
Imaginez que nous puissions modifier des êtres humains qui auraient des caractéristiques améliorées, des os plus solides, moins sujets aux maladies cardiovasculaires, ou des caractéristiques plus valorisantes en changeant la couleur de leurs yeux ou en les rendant plus grands. À l'heure actuelle, l'état des connaissances ne permet pas de savoir quels gènes agissent sur ces caractéristiques. Mais il est important de savoir que la technologie CRISPR nous offre un outil qui nous permettra de réaliser ce genre de mutation dès que ces connaissances seront à notre portée.
Oui, les possibilités sont donc immenses, hein, on l'entend, et du coup, les enjeux financiers sont aussi.
Un expert m'a dit, hein, cette course-là, c'est la nouvelle conquête de la Lune. Et ce n'est pas qu'une image. Hein. Toute la question maintenant, c'est de savoir qui aura la propriété des brevets de CRISPR. Parce que si un laboratoire de recherche met au point un traitement grâce à CRISPR, celui qui les détiendra pourra venir lui demander des royalties.
Oui, donc des millions de dollars, si ce n'est des milliards d'ailleurs. Et ce qu'on observe, Sylvain, c'est qu'on se dispute du coup âprement la paternité de CRISPR.
Oui, peu de temps après leur article dans Nature en 2012, les deux découvreuses de CRISPR, Jennifer Doudna et la Française Emmanuelle Charpentier, ont déposé une demande de brevet. Mais un autre chercheur américain, Feng Zheng, les a doublés en déposant une demande en procédure accélérée. Du coup, il y a un procès en cours et cela pourrait prendre des années pour savoir qui est le propriétaire de cette technologie.
Oui, sauf que pendant qu'on se livre cette guerre juridique pour savoir donc qui aura la paternité de CRISPR, eh bien en coulisses se livre aussi une autre guerre, cette fois-ci pour être le premier à proposer des traitements.
Et des sommes astronomiques sont déjà investies. Écoutez ce qu'en dit Cécile Chevret, une journaliste spécialisée dans les sociétés qui travaillent sur les biotechnologies, les biotech comme on dit.
C'est des millions de dollars qui sont mis sur la table, sur les levées de fonds, qui se font par tour de table. Quand une biotech démarre, elle va avoir un premier cercle d'investisseurs qui mettent des millions sur la table. Et puis ensuite, il y a souvent plusieurs tours de table, deux, trois, avant d'envisager une véritable introduction en bourse. Par exemple, Editas, qui est une des sociétés, une des biotech concernées, avait déjà récolté plusieurs centaines de millions de dollars avant même de rentrer sur le marché boursier en tant que tel. Et au moment de l'introduction en bourse, ils ont levé à peu près 95 millions de dollars en un jour. C'est énorme.
Oui, donc la course au brevet est bien lancée et elle est d'autant plus acharnée, Sylvain, que CRISPR ne concerne pas que des applications thérapeutiques.
Non, il y a aussi les plantes et du coup, il n'y a pas que les laboratoires pharmaceutiques qui s'intéressent à CRISPR, m'a expliqué Cécile Chevret.
Monsanto a obtenu un accord de licence du Broad Institute, qui est un des détenteurs potentiels des brevets CRISPR, pour utiliser la technologie CRISPR sur le végétal. Et ça aussi, le marché des semences, le marché de l'agriculture, c'est un marché énorme. Donc peut-être même en potentiellement plus, qui va rapporter beaucoup plus d'argent à plus court terme. Donc là, je pense aussi qu'il y a cette partie-là explique l'intérêt des investisseurs pour la technologie.
Donc on investit aussi dans ce marché, mais ces plantes modifiées par CRISPR, ces plantes donc apparemment si convoitées, elles sont déjà au point ?
Absolument. Aux États-Unis, deux produits sont tout proches d'être commercialisés. C'est ce que m'a raconté Agnès Ricroc, professeure à AgroParisTech.
Il y a au moins deux plantes qui sont sur le marché, qui sont autorisées. Hein. On a un champignon qui ne brunit pas. Dès que vous coupez votre champignon, voilà, il va noircir. Tout le monde a vu ce phénomène-là. On a compris comment ça fonctionnait et on a modifié le gène en question. Et puis, il y a une autre création chez le maïs, hein, dit waxy, c'est-à-dire qu'en fait, son amidon, il est totalement constitué d'amylopectine. C'est un sucre lent. Et c'est recherché dans l'agroalimentaire.
Oui, donc, si je comprends bien, il existe déjà deux plantes modifiées par CRISPR aux États-Unis. Mais c'est pas ce qu'on appelle tout simplement un OGM, ça ?
Eh bien, oui et non. Et c'est tout le débat qui fait rage actuellement. Pour certains, une plante modifiée avec CRISPR ne serait pas un OGM au sens où la réglementation l'entend. Écoutez les explications d'André Choulika, qu'on entendait tout à l'heure, hein, le patron de Cellectis, cette biotech française qui a une filiale aux États-Unis qui s'occupe précisément de ces plantes d'un genre nouveau.
L'OGM, tel qu'il est défini dans les lois aujourd'hui, c'est une plante transgénique où il y a effectivement, par exemple, un morceau d'ADN bactérien intégré dans un maïs et les gens n'en veulent pas. Ok, je peux comprendre. Maintenant, une plante issue d'édition de génome n'est pas transgénique. Il n'y a pas d'ADN étranger à porter dedans. C'est simplement une mutation naturelle qui a été rentrée de façon précise à l'intérieur.
Ouais, naturelle, elle est vraiment naturelle cette mutation.
Si l'on considère qu'il y a une intervention humaine pour enlever un gène, non, ça n'est pas naturel. Mais le fait qu'on n'ajoute pas d'ADN étranger exclut ces plantes de la classification OGM. C'est du moins ce qu'on pense aux États-Unis et on le pense d'autant plus qu'une plante classée OGM est beaucoup plus chère à produire, donc moins rentable.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que l'administration américaine fait pression en ce moment sur l'Union européenne, justement pour qu'elle n'accorde pas de statut particulier à ces nouvelles plantes.
Oui, on assiste à un intense lobbying, comme l'a révélé Franziska Achterberg de Greenpeace, qui a enquêté sur le sujet.
On a appris que, justement, la Commission allait classifier des produits d'édition de génome comme OGM. L'État américain a pesé sur cette décision de la Commission européenne. Il y a eu des réunions, il y a eu des échanges de lettres, beaucoup de contacts entre les autorités européennes et américaines sur ce sujet-là. La Commission a cédé aux pressions. Ça, c'est clair.
Attendez, elle a cédé aux pressions, c'est-à-dire elle accepte de ne pas les classer comme OGM, ces nouvelles plantes ?
Alors, pas tout à fait. Hein. Elle a finalement décidé de ne rien décider. Et cette affaire va se retrouver d'ici à quelques mois devant la Cour européenne de justice qui, elle, va devoir trancher.
Bon, à suivre donc. En attendant, Sylvain, beaucoup crient au scandale.
Oui, vous vous doutez bien que ce raisonnement fait hurler les associations environnementales qui ont d'ailleurs claqué la porte du Haut Conseil des biotechnologies en France, au Conseil qui avait publié un rapport très favorable à l'autorisation de ces plantes. Je suis allé voir Yves Berthaud, il est directeur de recherche à l'INRA. Il fait partie des démissionnaires et pour lui, ces plantes sont bien des OGM.
OGM, il faut revenir à la définition de la directive européenne qui indique que c'est tout ce qui a trait en fait à une modification qui n'existe pas naturellement et qui est donc le fait de l'homme. Donc ce sont des OGM parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il y a de nombreuses modifications inattendues, non prévues, et qu'il faut les étudier.
Secret d'info sur France Inter.
Bon, alors on a vu que CRISPR permet des choses incroyables, hein, qui vont de la guérison de certaines maladies génétiques à la recréation d'espèces. On a vu qu'il y avait une course au brevet avec des millions ou des milliards à la clé et un débat sur l'apparition de nouveaux types d'OGM. Alors on va voir maintenant que cette nouvelle technologie, eh bien, elle ouvre aussi des perspectives beaucoup plus inquiétantes parce que à jouer avec le vivant, Sylvain Tronchet, eh bien, on joue aussi avec le feu.
Oui, alors pour bien comprendre, je vais partir d'un exemple d'utilisation positive de CRISPR qui pourrait permettre d'en finir avec le paludisme, qui fait encore plus de 400 000 morts par an dans le monde. Cette maladie est transmise par un moustique, l'anophèle. Or, on s'est aperçu que certains anophèles ne transmettent pas le paludisme. On a donc cherché pourquoi à Strasbourg, dans le laboratoire d'Éric Marois de l'INSERM.
On a commencé donc à regarder les différents gènes qui pouvaient être impliqués. Et depuis 2012, on sait enfin, à l'aide du système CRISPR-Cas9, pour la première fois, on est capable de dire « Ah, voilà un gène qui pourrait bien être impliqué, on va l'enlever, donc on peut mutagéniser à l'aide du système CRISPR-Cas9 le gène cible. »
Et donc, on a commencé à produire en laboratoire des moustiques résistants au paludisme. L'idée à terme, ce serait d'introduire ces moustiques modifiés dans la nature pour qu'ils se reproduisent et qu'en quelques générations, tous les anophèles deviennent résistants. Ce serait la fin du paludisme, mais ça veut dire aussi qu'on a transformé l'espèce.
Parce que la modification génétique, elle se transmet à la descendance ?
Chez certains animaux, oui, on sait déjà le faire.
Ah, chez certains animaux et chez l'homme, donc ?
Eh bien, cela fait partie des choses qui pourraient devenir possibles, en théorie. Provoquer des mutations génétiques que l'on pourrait transmettre à nos enfants, qui eux-mêmes les transmettraient. Et cela pose un vrai problème pour le professeur Alain Fischer de l'Institut des maladies génétiques Imagine.
Ça pose des questions éthiques majeures. Est-ce que nous avons le droit, nous, de donc modifier le génome d'individus qui naîtront dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans ? Est-ce qu'on, sans le savoir, est-ce qu'on ne prend pas quand même un risque de modifier le patrimoine génétique germinal, donc qui est transmis à la descendance, autrement dit, d'une certaine façon, touché au patrimoine génétique de l'homme ? Donc je pense que ça pose un problème éthique absolument fondamental, pour moi rédhibitoire. À titre personnel, je suis absolument défavorable.
Il y est défavorable, d'accord, mais qu'est-ce qui empêche de le faire quand même, Sylvain ?
Eh bien, d'abord une difficulté technique. Pour qu'une mutation génétique soit transmissible, il faut qu'elle soit faite au stade de l'embryon, sinon elle ne se transmet pas.
Oui, mais travailler, faire de la recherche sur des embryons, c'est interdit, ça.
Non ? En France, oui, on a signé une convention qui interdit ce genre d'expérience. Mais la Chine, par exemple, elle ne l'a pas ratifiée. Et d'ailleurs, deux équipes chinoises ont déjà utilisé CRISPR sur des embryons.
Ça ne choque personne, ça ?
Si, l'annonce a indigné pas mal de monde, mais précisons que ces embryons étaient non viables. À chaque fois, il n'était donc pas question de produire des bébés OGM. En tout cas, il y a là un vrai débat, comme l'explique Catherine Bourguin, généticienne et présidente de l'association Sciences Citoyennes.
Il y a beaucoup de scientifiques qui disent « D'accord, on ne va pas modifier l'humain pour faire des humains modifiés, mais laissez-nous le droit de faire de la recherche sur l'embryon en utilisant CRISPR, parce que ça nous permettra de comprendre des choses sur le développement de l'embryon, d'améliorer par exemple la fécondation in vitro, etc. Mais là, il y a un vrai enjeu qui est peut-on, doit-on autoriser la recherche, quelle que soit la finalité sur l'embryon ? Moi, personnellement, je suis très mal à l'aise avec cette idée parce que il me semble que c'est commencé à rentrer dans une mécanique qu'on a beaucoup de mal à contrôler une fois qu'elle est lancée.
Oui, du mal à contrôler, sous-entendu, transformer le vivant, en l'occurrence l'homme, hein, c'est de ça qu'on parle, sans en mesurer les conséquences. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs à s'inquiéter des dérives qui pourraient se produire avec CRISPR.
Non, et même la co-découvreuse de CRISPR, Jennifer Doudna, se demande si on ne va pas un peu trop vite. Et ce qui l'a alerté, ce sont les recherches d'un étudiant, un doctorant aux États-Unis. Il a modifié un virus. Il l'a fait respirer à des souris et cela leur a provoqué un cancer du poumon. Quand elle en a eu connaissance, Jennifer Doudna a été littéralement effrayée parce que une toute petite erreur de conception aurait pu rendre ce virus nocif pour l'homme. Du coup, Jennifer Doudna tente maintenant de freiner les ardeurs de ses collègues.
Il y a de nombreuses questions éthiques que nous devons considérer avec attention. C'est pourquoi, avec mes collègues, nous appelons à une pause globale de toutes les utilisations de la technologie CRISPR sur les embryons humains, le temps que nous puissions en mesurer toutes les implications.
Oui, il faut prendre le temps de la réflexion, nous dit en clair cette chercheuse. Sauf qu'on est peut-être déjà allé trop vite, Sylvain, parce que des apprentis sorciers utilisent déjà CRISPR hors des laboratoires.
Et on va voir que les menaces sont considérables. Mais avant cela, intéressons-nous aux bricoleurs de génomes les plus sympathiques. Et tout d'abord, écoutons cette publicité que l'on peut trouver sur Internet.
We are offering two different CRISPR experimental kits. So now the question is, if you had access to cutting-edge synthetic biology tools, what would you create?
C'est un spot de pub qui présente donc des kits CRISPR vendus $150 par correspondance et qui dit à la fin « Si vous aviez accès à un outil de pointe de biologie synthétique, qu'allez-vous créer ?»
Je sais pas, un petit Frankenstein. Bon, mais précisément, qu'est-ce qu'il y a dans ces kits, Sylvain ?
Rien de bien méchant. Vous avez de quoi modifier une bactérie et la rendre résistante à un antibiotique ou modifier la couleur d'une levure.
Oui, on comprend que ce genre de kit en vente sur Internet est plutôt inoffensif. Mais il y a plus préoccupant, Sylvain. Certains font déjà de la manipulation génétique dans des garages, par exemple.
Alors, en France, c'est interdit. Il faut des autorisations spéciales. Mais aux États-Unis, effectivement, c'est le cas. Il y a de plus en plus de laboratoires participatifs où des gens comme vous et moi viennent s'essayer au génie génétique parce que CRISPR est relativement simple à utiliser. Avec un peu de matériel et un peu de formation, pas besoin d'être docteur en biologie.
Mais c'est pas un peu léger ça, de laisser un tel outil à la disposition de n'importe qui ?
Alors les biohackers, comme on les appelle, répondent qu'ils ont des codes éthiques. Pas de travail sur l'homme, pas d'expérience sur des agents pathogènes. Mais comment être sûr que tout le monde respecte ces codes ? Et c'est bien ce qui inquiète les services de sécurité. Le premier à tirer le signal d'alarme, il y a un an, a été un officiel américain. Et pas n'importe lequel, c'est ce que m'a raconté Olivier Lepic, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
James Clapper, qui était le directeur de l'ensemble des services de renseignement américains, qui donc traditionnellement au mois de février publie un rapport sur l'état de la menace contre les États-Unis, a annoncé que l'édition de gènes devait figurer parmi les menaces d'armes de destruction massive pour les États-Unis. Et donc il y a eu effectivement un petit choc, mais évidemment avec la généralisation de ces techniques d'édition de gènes, je pense qu'on va vers des temps où ce débat sera encore plus aigu.
Attendez, j'ai bien entendu là Sylvain, Olivier Lepic, il parle bien d'une possible arme de destruction massive, c'est pas un peu exagéré ça hein ?
Mais vous savez, on est déjà capable d'éradiquer une espèce. Vous vous souvenez le moustique dont je vous parlais tout à l'heure ? Eh bien, des Britanniques envisagent de leur introduire un gène de stérilité et donc à terme, faire disparaître l'espèce de la surface de la Terre. Et c'est pour ça que James Clapper classifie CRISPR au même niveau que le programme nucléaire nord-coréen. Les conseillers scientifiques de Barack Obama en ont d'ailleurs remis une couche quelques semaines plus tard dans une lettre où ils précisent les scénarios qu'ils redoutent. Benoît Colomba nous en lit quelques extraits.
Un exemple serait d'utiliser la technologie CRISPR pour créer des virus qui pourraient couper, modifier, éteindre ou activer un gène et de ce fait affecter une fonction cellulaire importante. Il est possible qu'une attaque bien exécutée et planifiée reste invisible pendant des jours ou des semaines. La recherche et le développement de traitements contre un agent infectieux spécifique nécessitent actuellement des années, souvent plus de 10 ans. Étant donné que les progrès des biotechnologies augmentent les risques de mauvais usage, il est important de pouvoir mettre en place des contre-mesures médicales beaucoup plus rapides.
Oui, plutôt inquiétant, ces propos tenus par ces conseillers américains. Et en France, on pense la même chose ?
Oui, le secrétariat général à la Défense nationale a créé, juste après les attentats de Paris et Saint-Denis, un conseil national consultatif pour la biosécurité, constitué d'experts. Et l'un d'entre eux m'a confirmé que CRISPR fait partie de leurs préoccupations.
Ah oui, donc là aussi, on croit dans un possible scénario catastrophe. CRISPR pourrait être utilisé par des bioterroristes.
Ce n'est pas pour demain, hein, mais à l'allure où vont les choses, il faut forcément prendre en compte ce risque. D'autant qu'il y a de plus en plus de personnes formées à ces techniques. Aujourd'hui, probablement plus de 3000 laboratoires dans le monde utilisent CRISPR. Donc, des milliers d'étudiants, de doctorants, pas forcément tous animés de bonnes intentions. Et c'est pourquoi la DGSI s'y intéresse de près, comme me l'a raconté Olivier Lepic.
Les services de renseignement surveillent discrètement les étudiants, les doctorants qui seraient susceptibles de développer des compétences qui pourraient être utilisées dans le cadre d'une dérive terroriste. Et je pense qu'on va aller vers un renforcement de ce type de surveillance parce que, évidemment, aujourd'hui, avec les techniques d'édition de gènes, là où il fallait des équipes extrêmement complexes de plusieurs dizaines de scientifiques, aujourd'hui, eh bien, ces outils permettent de faciliter l'accès à un certain nombre de travaux sans des équipes pléthoriques, sans des ressources financières énormes. Et c'est là que se pose le problème de ce type de technologie. Leur détournement peut être envisagé de manière beaucoup plus évidente que ce qui pouvait exister il y a simplement une dizaine d'années.
Et pour confirmer ces propos, hein, un directeur de recherche m'a raconté qu'un jour, on lui avait refusé d'employer un doctorant. On ne lui a pas expliqué pourquoi, mais il est clair qu'on fait désormais très attention au profil de ceux qui peuvent avoir accès à ces techniques.
Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas que les virus qui peuvent déstabiliser un pays, on étudie aussi d'autres scénarios.
Oui, un chercheur avec qui j'en ai parlé m'a donné un exemple. Imaginez que quelqu'un conçoive une pomme de terre toxique. Et on a vu hein, qu'on pouvait déjà modifier des végétaux. Vous introduisez dans le circuit de distribution quelques exemplaires de cette pomme de terre, vous avez quelques victimes, et en quelques semaines, le marché de la pomme de terre s'effondre. Voilà le genre d'hypothèse qui est pris très au sérieux par les services de sécurité.
Ouais, rien de très réjouissant. Et on n'a pas encore tout dit, Sylvain, parce qu'il existe encore un dernier risque, et pas des moindres.
Eh bien oui, à beaucoup plus long terme, hein, celui de l'avènement d'une société à deux vitesses, où, un peu comme dans le film « Bienvenue à Gattaca », les riches auraient accès à la science et pourraient faire partie d'une élite génétiquement parfaite, tandis que les pauvres seraient vulnérables aux maladies. Les classes sociales seraient aussi des classes génétiques, en quelque sorte, comme l'envisageait ce film il y a 20 ans.
Jérôme, j'ai demandé votre séquençage, j'ai lu votre profil. Je suis désolée.
Voilà, ça semble encore être de la science-fiction, hein, c'est vrai, mais la technologie qui pourrait le permettre, elle, est déjà là.
Ouais, science sans conscience, c'est toujours la même histoire. Merci Sylvain Tronchet pour cette enquête à la fois passionnante et on l'a vu inquiétante. Une enquête que vous pouvez réécouter, podcaster, lire, dont vous pouvez voir un résumé en vidéo sur franceinter.fr. Vous pouvez également la retrouver dans l'édition numérique du Parisien Magazine, qui est notre partenaire cette semaine, en allant sur leparisien.fr. Et vous pouvez enfin nous faire part de vos commentaires sur la page Facebook de Secret d'Info. Allez, restez avec nous dans un instant. Tout autre chose, l'affaire Uramine, 3 milliards jetés par les fenêtres par Areva et des révélations sur de possibles rétrocommissions. Strange Obi Forgotten, c'est le nouveau titre du groupe britannique The Temples, dont Noël Gallagher, l'ex-Oasis, considère qu'il est un des meilleurs du moment.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Vincent Crouzet, bonjour.
Bonjour Jacques Monin.
Vous publiez chez Robert Laffont un livre qui s'appelle « Une affaire atomique » qui raconte par le détail l'affaire Uramine. Alors en deux mots, Uramine, c'est une société canadienne qui avait acheté 3 mines d'uranium en Afrique pour 27 millions d'euros et qui les a revendues à Areva pour 1,8 milliard. Oui, vous ne rêvez pas. C'était des mines inexploitables dont on n'a jamais extrait un gramme d'uranium. Au total, en fait, si on ajoute les travaux, c'est un fiasco qui aura coûté la bagatelle de 3 milliards d'euros. Alors, ce qu'il faut préciser, Vincent Crouzet, c'est que vous révélez un certain nombre d'informations et vous le faites sur la base d'un témoignage, tout part de là. C'est celui d'un homme d'affaires pakistanais qui un jour vous a approché et vous a fait des confidences. Il s'appelle Saifé Durbar. Alors, peut-être en deux mots d'abord, qui est Saifé Durbar et pourquoi est-ce qu'il vous a fait ces confidences?
Saifé Durbar, c'est un homme d'affaires pakistanais, qui a aussi la nationalité centrafricaine, et qui en fait était très opérant dans le domaine minier, notamment dans le domaine de l'uranium. Et le 28 octobre 2009, il me fait appeler par l'un de mes amis, et je me rends à Londres à ses côtés, où il me livre ses secrets de l'affaire Uramine, et donc je suis dépositaire de ces informations. Pourquoi souhaite-il me rencontrer? C'est qu'il a été condamné un an plus tôt par défaut par la justice française. Il souhaite solder ses comptes avec la justice
condamné,
française.
Condamné, précisons.
Condamné pour une affaire d'escroquerie, mais lui s'en défend. Néanmoins, il souhaite purger sa peine de prison et il me demande d'être son messager auprès de la France afin de bénéficier de conditions de sécurité pendant sa peine de détention, contre son silence sur l'affaire Uramine.
De faire passer le message au sommet de l'État. Alors précisons qui vous êtes. Vous êtes un consultant, vous êtes un spécialiste des questions africaines.
À l'époque, je suis consultant, en 2009.
Oui. Vous avez été conseiller auprès du ministre du
commerce extérieur,
secrétaire d'État au commerce extérieur, et on croit deviner entre les lignes que vous avez des liens avec la DGSE.
J'ai dû avoir des rapports, j'ai eu une grande proximité avec cette administration. J'en profite pour dire que c'est pas une honte d'avoir travaillé pour les services de renseignement de son pays, au contraire.
J'en fais plutôt une
fierté, voilà. Ouais. Ouais.
Alors donc Saifi Durbar vous explique qu'Uramine, selon lui, c'est une escroquerie.
En fait, la question qui se pose, la seule explication rationnelle sur ce type d'opération, c'est si vous achetez quelque chose qui vaut 66 fois sa valeur, c'est qu'il pourrait y avoir entente présumée entre le vendeur et l'acheteur. Sinon, c'est absolument inexplicable. On ne peut pas l'expliquer.
Et Saifi Durbar vous dit, quand on fait un cadeau à quelqu'un, en général, il vous remercie.
Alors, c'est pas lui qui me le dit, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose de très courant dans le monde du pétrole et des mines. Quand quelqu'un, effectivement, quand on achète très cher à un vendeur, eh bien le vendeur, effectivement, effectue des rétropaiements et des feedbacks pour remercier cet acheteur. Et ça peut encore plus se comprendre dans le cas d'argent public. C'est-à-dire que là, c'est extrêmement facile, puisqu'en fait, l'acheteur ne perd pas son argent, puisqu'il utilise l'argent du contribuable.
Alors Vincent Crouzet, une fois qu'on a dit ça, on n'a aucune preuve. Tout ça, ce sont des hypothèses, ce sont des liens.
Ouais.
On n'a jamais trouvé la trace de la moindre rétrocommission aujourd'hui.
Alors il se trouve qu'aujourd'hui, l'affaire Uramine restera à l'état de fantasme. Si on ne va pas chercher dans le dernier paradis fiscal, où les informations bancaires ne sont pas encore prescrites. C'est-à-dire que s'il y a eu rétropaiement et rétrocommission, c'est passé par des paradis fiscaux, via des compagnies offshore, et tant aux Bermudes qu'aux îles Caïmans, qu'aux îles Vierges Britanniques, il y a prescription sur ces opérations. Et effectivement, dans ces paradis fiscaux, les évidences ont été nettoyées.
Alors vous êtes en train de nous dire qu'il y a un endroit où on peut encore trouver ?
Alors il y a un endroit où on peut encore retrouver trace des rétropaiements, puisque c'est pas très loin de chez nous, c'est un paradis fiscal qui s'appelle la Principauté de Monaco, où à partir de l'été 2007, donc quelques semaines après l'OPA, des mouvements conséquents sont tombés sur des comptes appartenant à une éminente haute personnalité francophone qui n'est, je le précise, ni française ni africaine. Je peux pas donner son nom.
Oui, j'allais vous le demander, oui.
Je peux absolument pas donner son nom parce que c'est quelqu'un de...
Donc elle est monégasque ?
Elle est peut-être monégasque.
Ouais.
Elle est peut-être monégasque, elle a des rapports très étroits avec le pays de destination finale de ses fonds, qui en fait n'ont été qu'hébergés dans ces trois banques.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a à Monaco une ou des banques sur lesquelles on a constaté des flux financiers suspects et qui seraient susceptibles d'avoir été alimentés par des rétrocommissions liées à la vente d'uramine à Areva.
C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est le dernier endroit où la justice française peut se déployer à travers une demande d'entraide de justice internationale pour mettre la main sur ses comptes. Et je dirais que c'est un petit peu le dernier appel. Dans quelques mois, il sera trop tard. Et si l'on nous dit
pourquoi
dans quelques mois...
Parce que les délais de prescription à Monaco sont pas les mêmes que dans d'autres paradis.
Sont de 10 ans. Donc 2007, 2017.
On y est.
Donc si effectivement ces comptes ont bien été alimentés dans le cadre des rétropaiements de l'affaire Uramine, il ne reste que quelques mois à la justice pour mettre la main sur ces comptes et éventuellement sur les bénéficiaires de ces rétrocommissions. Voilà, je livre cette information parce qu'il faut aller vite et il faut avancer sur ce dossier.
D'accord, alors je précise quand même, Vincent Crouzet, qu'à ce stade et dans ce volet de l'affaire, il n'y a pas eu de mise en examen et on n'a aucune preuve. C'est-à-dire, il y a des soupçons, mais il n'y a pas de preuve.
Les mises en examen...
Il y a des mises en examen dans un autre volet qui est celui de dissimulation.
Ouais, dissimulation et la partie plus comptable. En fait, il faut savoir qu'il y a deux instructions qui sont ouvertes. La première concerne effectivement tout ce qui est comptable.
Oui, la gestion de l'après-Uramine.
Le problème de la dépréciation des actifs, etc.
C'est ça. On reproche à Anne Lauvergeon d'avoir tardé à porter à la connaissance de ses associés, de ses collaborateurs, la réalité du fiasco, parce qu'elle avait peut-être en tête aussi sa possible reconduction. Donc, cette affaire-là, elle est mise en examen.
Anne Lauvergeon était mise en examen, oui.
Mais pas dans l'autre, pas dans celle d'éventuelle rétrocommission, etc.
Pas dans l'autre. D'ailleurs, je n'engage absolument pas la responsabilité d'Anne Lauvergeon, alors là, sur ce dossier-là de l'affaire. Bon, je voudrais être en mesure de vous donner le nom des trois établissements bancaires. En préambule, je dis que je ne mets pas en cause la responsabilité formelle de ces trois établissements qui brassent des milliards de toute manière tous les ans. Néanmoins, la réputation de certains de ces trois établissements laisse à désirer dans le milieu, donc ce ne serait pas étonnant que l'on retrouve des fonds douteux passant par ces trois banques. Alors, il s'agit de trois banques monégasques. La première, c'est la filiale monégasque de la banque suisse Julius Baer, qui est une très grande banque suisse, qui a donc une filiale à Monaco. La seconde banque par laquelle seraient passés donc des fonds des rétrocommissions d'Uramine, c'est la banque Monte dei Paschi, qui est la plus vieille banque privée au monde, qui est une banque siennoise qu'on retrouve dans certains scandales retentissants en Italie. Aujourd'hui, elle apparaît sous le nom de Handbank Monaco depuis 2011. Et la troisième banque, c'est la banque Pache, qui est une filiale du groupe luxembourgeois Havilland. Voilà.
D'où viennent ces informations? Qu'est-ce qui permet de penser qu'il y a eu des flux financiers suspects sur les trois banques que vous venez de citer?
Parce que c'est un témoin qui ne peut pas sortir du bois pour des raisons de sécurité, parce qu'il a obtenu ces informations de manière très confidentielle en interne, par quelqu'un qui participe au système bancaire monégasque.
Vous pouvez pas en dire plus, quoi.
Et c'est très compliqué pour lui. Je prends sur moi le fardeau de donner...
Vous faites le messager une deuxième fois.
Peut-être pas nécessairement du même témoin, mais je le fais pour faire avancer les choses, parce que aujourd'hui, je veux que le... Moi, ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est les gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Donc j'aimerais bien que tout le monde participe à cet effort de vérité. Je vous prends un exemple. Quand la brigade financière a demandé à Areva la liste des actionnaires d'Uramine qui ont été rémunérés, Areva a déclaré qu'elle avait perdu, qu'elle avait égaré cette liste-là. Comment peut-on dire ça? Comment est-ce possible que l'on mette des mois à donner la liste des actionnaires d'Areva si elle n'était pas si sensible?
Bien, merci Vincent Crouzet pour ce témoignage.
Merci Jacques.
Je rappelle que votre livre, Une affaire atomique, est paru chez Robert Laffont. Je précise que, au-delà de ce qu'on a dit, de ce qu'on a évoqué, des zones d'ombre qui persistent, il se lit comme un thriller. Et c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours des livres qui ont des qualités informatives, mais aussi des qualités littéraires. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Léa Dupouy-Hennequin qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Hélène Biziot qui était notre réalisatrice. À la technique, il y avait Stéphane Boja et Valentin Hazan. La programmation musicale était, elle, signée Jean-Baptiste Audibert. Dans quelques instants, vous retrouvez Denis Chessou pour CO2 Mon Amour. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.